Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un rôle fascinant et essentiel en éducation, celui de coordinateur pédagogique. On va s'appuyer sur la description des missions de Dani Moreno Alonso.
Bonjour. Oui, un rôle clé, souvent un peu dans l'ombre, mais absolument central. Ce qui m'a tout de suite marqué, c'est la description initiale. Elle dit « Dépourvu d'autorité formelle, le coordinateur pédagogique peut animer, susciter, accompagner, et ainsi de suite.
Mmh. »
Animer, susciter, mais sans autorité directe.
C'est ça la question, en fait. Comment ça fonctionne concrètement, sur le terrain?
C'est tout le cœur du sujet. Ce poste, c'est une cheville ouvrière dans une école. Il est là pour assurer la cohérence, pour huiler les rouages, pour dynamiser l'équipe pédagogique.
D'accord.
Sans ça, beaucoup de bonnes idées pourraient rester lettre morte ou isolées. C'est un lien, vraiment.
Alors, regardons le plus près. Le premier gros bloc, c'est la vision pédagogique. On parle d'élaborer le projet, de planifier les programmes,
oui,
de coordonner les enseignements, et surtout, le suivi des PIA, les plans individuels d'apprentissage. Comment on s'assure que tout le monde suit, sans pouvoir l'imposer?
Alors là, on touche à la dimension, disons, stratégique et surtout relationnelle. Le coordinateur, il ne va pas décréter « faites ci, faites ça ».
Non.
Il doit co-construire. Pour les PIA, par exemple, qui sont cruciaux pour les élèves à besoins spécifiques, l'idée, c'est de créer une vision, une compréhension partagée avec toute l'équipe. Il faut convaincre, montrer l'intérêt, faciliter la mise en place. C'est un travail de fond, hein, de persuasion douce, de soutien, pas d'autorité brute.
Je vois. Ça demande une sacrée capacité à fédérer, en fait.
Exactement.
Le deuxième aspect, c'est le soutien direct aux enseignants. L'appui pédagogique au quotidien, organiser des formations, partager les bonnes pratiques.
Tout à fait. Le développement professionnel.
Et il y a un point qui semble vraiment crucial, surtout dans le contexte de l'enseignement spécialisé qui est mentionné type 1, 2, 8.
Oui, des besoins très spécifiques.
C'est l'accueil des nouveaux enseignants ou membres du personnel. Les textes insistent sur une intégration rapide, la maîtrise d'approches comme TACA, la CAA.
Communication alternative et améliorée, oui.
Ou d'autres liées aux troubles du langage, TDL, TDC. Et même un système de parrainage. Pourquoi cette insistance, d'après vous?
Parce que arriver dans un environnement spécialisé comme ça, ça peut être déroutant. Il faut comprendre vite non seulement le projet de l'école, mais aussi ses outils, ses approches très pointues.
Ah ouais, d'accord. Les PIA, les grilles d'observation, les techniques de communication spécifiques, comment gérer certains comportements. C'est dense. Donc, un bon accueil, un parrainage, une formation ciblée, comme c'est mentionné, c'est vital pour que la personne soit efficace rapidement, mais aussi pour qu'elle se sente bien, soutenue. C'est bon pour elle et au final, c'est essentiel pour les élèves.
Logique, on sent bien l'importance de l'humain là-dedans. Le troisième grand axe qu'on voit, c'est ce rôle d'interface.
Oui.
Le contact avec les familles sur les questions pédagogiques, la gestion des ressources, le matériel, les manuels. Hein.
Les outils numériques, de plus en plus. Voilà. Et puis les partenariats externes, l'encadrement des stagiaires aussi. Ça fait beaucoup de liens à tisser, non?
Oui. Oui, ça confirme bien cette image de plaque tournante, de hub. Le coordinateur, il connecte tout. L'interne, élève, prof, direction. Et l'externe, les familles, les partenaires, les futurs profs. Et même, implicitement, les autorités de tutelle.
Ah oui, par le respect des cadres, j'imagine. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il fait tout ça en s'appuyant surtout sur quoi? Sur sa crédibilité, sa diplomatie, sa capacité à créer du lien, du consensus. Donc si on essaye de résumer, il y a la planification, le soutien humain et pro, la communication dans tous les sens, la gestion des ressources, la veille réglementaire, c'est incroyablement varié comme rôle.
Tout à fait. Et on en revient toujours à ce point de départ. Faire tout ça sans l'autorité hiérarchique d'un directeur, par exemple, c'est vraiment un leadership d'influence.
C'est exactement ça. Un leadership d'influence et l'impact, quand c'est bien fait, peut être énorme sur le climat de l'école, sur la qualité de ce qui est proposé aux élèves et sur l'accompagnement vraiment personnalisé, surtout dans un contexte exigeant comme l'enseignement spécialisé décrit ici.
Un bon coordinateur peut vraiment tout changer, en somme.
Absolument. Alors, ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question pour la route, en quelque sorte.
Oui. Si ce rôle dépend tellement des compétences relationnelles, de cette influence sans autorité directe, quelle serait, selon vous, la compétence ou la stratégie la plus décisive? Celle sans laquelle tout l'édifice serait fragile. Qu'est-ce qui permet vraiment de susciter cette adhésion, de faire avancer les choses collectivement?